Voix Nue. Ce soir encore, Nejma Bouakra rencontre Maggie Marin. Tout de suite, ça quand même.
Maggie Marin, vous êtes chorégraphe et danseuse. Plus de 40 créations, une autre à venir, 40 ans de carrière, certains pourraient y voir une sorte de boulimie. Mais non, c'est un fil continu d'expérimentation. Une pièce s'arrête là, puis verse dans une seconde, quelques années plus tard, mais d'une toute autre façon, parce qu'il faut reprendre les choses autrement, par un autre bout. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez, écrivait Boileau. Maggie Marin, enfant vous fûtes sur la pointe des pieds, aujourd'hui vos danseurs marchent, courent, s'ébrouent, tombent, comme nous. Ils sont ordinaires et c'est en partant de ce qui est là que vous travaillez l'insolite. Justement d'être là, présenter quelque chose, l'étrange histoire d'une vie, présenter quelque chose. Et pourquoi faire? Quelle arrogance, vous demandez-vous à haute voix dans une autre pièce. Vous êtes resté au cœur de la cité, en capillarité avec le monde, ses affects. Si maybe une de vos pièces phares laissait surgir les ombres de l'exode, Ramdam, les corps domestiqués de la vie moderne, dans B.I.T., les chaînes humaines sont secouées de plaisirs archaïques venus du fond des âges, reptiliens, nos pulsions sont mises à nu. Pas sans humour et distance, votre danse, même assise, même ricanante, derrière un pupitre, comme dans « Ah 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 », pose un geste, un vis-à-vis discordant, un refus de l'indifférence. Bonsoir, Maggie Marin.
Bonsoir.
Que vous évoque la date de 2002?
Quelque chose de terrible, oui. L'arrivée de Le Pen, évidemment, en deuxième, au moment des élections.
Le quartier dans lequel vous êtes, non loin de Lyon, eh bien, ce quartier a voté à peu près à près de 20% pour le Front National. Vous n'êtes pas affligé, vous vous dites résolu à travailler là où vous êtes, dans ce quartier.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Il y avait un conseil municipal qui était très très dur. Enfin, les gens du FN, par rapport aussi à l'installation d'un centre chorégraphique comme ça, au sein d'une cité, comme s'il n'y avait pas des choses plus importantes, il a fallu se battre, en fait, pour... se dire que des choses comme ça n'étaient pas superflues, en fait, que ces quartiers-là aussi avaient le droit d'avoir des espaces de réflexion, de poésie, de pratique de l'art, tout simplement. Donc c'est un moment où, au contraire, ce genre de choses fait encore plus urgent l'importance de notre présence là-bas.
On vous parle ? Des élections, de l'extrême droite. On est un peu honteux de voter pour l'extrême droite? Pas tellement à cette époque-là. C'était bien sûr il y a 15 ans.
Ça commence à être bien dégagé quand même, mm-hmm. Je pense. Mais ça commence vraiment à prendre pied.
Oui. Vous êtes des saltimbanques, vous, non?
Mais oui, mais... Donc oui, effectivement, il y a des fronts, il y a un front... Qui remet en question notre installation là-bas. Mais on est pris entre plusieurs feux, hein, parce qu'on a à la fois l'extrême droite qui trouve qu'on est des espèces de bourgeois qu'on subventionne grassement. On a aussi les urgences sociales qui se disent « mais il faudrait peut-être songer à refaire les halls d'entrée des immeubles avant de donner des sous ». Ça a été de longues discussions avec des habitants aussi, pour faire comprendre que ce qui était amené par le centre chorégraphique, en fait, aurait de toute façon été amené, mais ailleurs. Donc, plutôt que d'être dans le centre de Lyon, on a préféré être dans cet endroit-là. Donc, c'était plutôt ce qu'on essayait d'expliquer, c'était qu'on essayait plutôt de ramener ces activités-là et les financements qui vont avec vers des quartiers comme ça, plutôt que de prendre sur d'autres budgets qui n'avaient rien à voir avec celui de la culture.
Quelques années plus tard, vous êtes de nouveau à Toulouse. Or, vous êtes né à Toulouse. Vous avez dansé à Toulouse, au Capitole ?
Peu.
Peu ?
Peu.
Peu.
Petite, oui.
Petite.
Petit rat.
Ça doit être incroyable, enfant.
Ah oui, c'est magnifique. Mmh. Ah oui. Oui, c'est magnifique, surtout que c'était des vieux théâtres, un peu féliniens à l'époque. Hein. Il y avait des danseuses, comme il n'en existe plus, qui faisaient des opérettes, des choses comme ça. Donc, beaucoup de poésie, en fait, je trouve, de ce temps-là. Mais Oui, j'ai des images qui me révulsaient à l'époque, parce que moi j'avais une idée de la danse et du métier de danseuse autrement plus haut, quoi. Et ces femmes, elles avaient leur vie de mère, d'épouse, elles allaient faire leur marché. Donc c'était vraiment, c'était félinien, vraiment.
Vous êtes heureuse de revenir à Toulouse ?
Ça me fait un peu peur en même temps. Enfin, à la fois, je trouve que la ville est très belle, et puis j'ai ma famille, ma maman qui est là-bas. Et puis il y a cette opportunité d'être, d'y vivre et de travailler, quoi. Chose que j'ai jamais même pensé pouvoir faire là-bas. Donc il y a tout ça. Et à la fois, la ville renvoie quand même une sorte de petit esprit provincial, quoi, dont j'ai pu, que j'ai pu subir adolescente, en fait. Donc j'ai peur de le retrouver, cet esprit-là. Et en fait, je l'ai retrouvé là-bas. J'ai cru que la ville a changé quand même. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Des possibles, en fait, se sont ouverts. Mais au fond, ça ne voyage pas assez, quoi. C'est vraiment... on reste entre soi, beaucoup. Je trouve que le déplacement des gens, des jeunes en particulier, quand on se retrouve à être étranger dans une ville ou dans un pays, même si c'est qu'un an ou deux... Ça déplace des choses vraiment de façon importante, cette notion de petit exil, en fait. À un moment donné, on sort de sa famille, on sort de son milieu, on sort de ses habitudes, on se retrouve dans un endroit, il faut se débrouiller, se démerder, parler avec les voisins, etc., se faire aider par des gens qui deviennent des amis. Enfin, toute cette nécessité à côtoyer l'autre, en fait, celui qu'on ne connaît pas depuis toujours, ça change la façon de voir des gens. Et je trouve que Toulouse, les gens, les Toulousains ne voyagent pas assez, en fait. Je trouve ça, la majorité d'entre eux. Mais je trouve ça aussi à Lyon, en fait. Je trouve que c'est important quand on commence à grandir un peu, qu'on s'en aille de son propre milieu.
Turba, cette pièce, elle parle beaucoup de séparation, de transmission aussi. C'est une pièce inspirée par Lucrèce, le texte de Lucrèce. Toi-même, un jour ou l'autre, tu voudras nous quitter, vaincu par les paroles terribles des devins. Pourquoi Lucrèce ? Comment est-ce que vous vous trouvez à travailler avec ce texte matériau ?
C'est une magnifique rencontre, encore une fois, avec ce texte. Il traînait un peu sur la table avec d'autres. Et puis on a commencé à travailler dessus et... Et bon, c'est une philosophie, c'est un poème philosophique que je trouve magnifique, en fait, sur l'histoire du clinamen. C'est le fait que les atomes, en tombant, font un petit pas de côté, là, et que c'est ça qui crée la vie. Que le désordre, en fait, le fait de sortir des rangs, permet d'engendrer de nouvelles choses, de nouveaux actes, de nouvelles vies. Je trouve que c'est vraiment. Ça m'a beaucoup, beaucoup enthousiasmé, en fait, ce texte. Donc, tout le travail à partir de ça, mais c'est né du sens même de ce poème philosophique. La question aussi des croyances, en fait. Donc, il est quand même c'est un matérialiste, quoi. Et ça, ça fait du bien à entendre.
En six langues, ce texte de Lucrèce. Les danseurs portent des costumes assez exubérants qui peu à peu s'accumulent sur la scène de façon baroque. C'est un texte magnifique, difficile, et probablement à dire aussi. Il y a ceux aussi qui spontanément naissent et se forment tout seuls dans la partie du ciel que nous appelons l'air et qui sous mille formes sont portés vers le haut, toujours se dissolvant, toujours changeant d'aspect pour prendre les contours de n'importe quoi. Tels les nuages qu'on voit parfois dans la hauteur aisément s'assembler.
Ce sont les simulacres. C'est ça. Très, très beau, oui.
Tels les nuages qu'on voit dans la hauteur aisément s'assembler, de leurs mouvements qui caressent les airs du monde, violer l'apparence sereine, car souvent, on croit voir des faces de géants.
Voler en projetant leur ombre largement, puis composer un monstre avec d'autres nuages.
Avec d'autres nuages. C'est ce texte que vous avez choisi. Et qui dit bien aussi votre façon de travailler. Les nuages, ça pourrait être vos formes aussi, vos formes scéniques, non ?
Ben, là, dans le cas de Lucrèce, c'est vrai que la question du simulacre a beaucoup été importante, quoi. Donc, la question de l'image, la fausse image aussi, en fait, celle qu'on croit voir et en fait qui n'est que le reflet de quelque chose d'autre qu'on croit réel, mais en fait qui n'est pas. C'est un point de vue, en fait. Il parle beaucoup de ça aussi, de l'endroit où on regarde et comment on peut voir des choses à des échelles différentes selon qu'on est placé loin ou près. Donc toute cette relativité de la connaissance que je trouve très, très forte aussi dans cette... Après, c'est vrai que c'est difficile à travailler, c'est difficile à dire, mais bon, on a fait beaucoup de travail de d'élucidation du texte même, parce que parfois le sujet est placé bien loin par rapport au verbe, donc il faut lire et relire et relire et se dire ce que chacun a compris là-dessus. Et puis, petit à petit, bien, le mettre en bouche et essayer de le rendre. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que les choses prennent du temps. Si je prends un petit peu plus de temps à lire et à relire, alors quelque chose, elle va me donner un petit secret, quoi. Et c'est un peu vrai de beaucoup de choses, ça. De donner ce temps-là pour que le secret des choses ou quelque chose de... me reviennent, en fait.
Vous êtes une grande lectrice ?
Oui, maintenant, oui. Ça fait une vingtaine d'années que je lis beaucoup. Avant ça, je lisais pas tellement. Oui.
Quels sont les auteurs qui vous accompagnent en ce moment ?
Là, je lis beaucoup Frédéric Lordon, par exemple. Parce que je pense que son rapport à la politique et aux affects me font découvrir, en fait... des choses qu'on ressent, mais sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots.
Parce que vous aimez Spinoza, que vous avez lu,
voilà,
également.
Mmh. Aussi. Donc, je lis pas mal d'économistes, en fait. Je vais dire ça, voilà. Alors que, bon, d'habitude, c'est plutôt Georges Didier Huberman, c'est plutôt des historiens d'art. C'est-à-dire qu'on vit dans un moment d'actualité où ces histoires d'économie et de financiarisation du monde... deviennent de plus en plus. Ça fait longtemps que ça existe, c'est comme ça, mais enfin, c'est un peu comme si ça planait au-dessus de nos têtes sans qu'on puisse en saisir la moindre petite parcelle de compréhension, quoi. Enfin, quelque chose, et je trouve qu'on est un peu responsable aussi de ne pas essayer de se saisir de ça. Donc j'essaye de me former, pas à l'économie, parce que j'en suis pas capable, mais en tout cas d'écouter ceux qui l'ont étudié pour en comprendre un peu plus de... les manigances, en fait.
Et du côté de la poésie ?
Si, Bergugno, voilà. Bergugno, bon, c'est pas un poète, mais si.
Sculpteur.
J'adore Bergugno. C'est Exister par deux fois, je crois, c'est le livre, voilà. Des gens comme ça...
Lui aussi tellurique, lui aussi qui vient de la terre.
Oui, mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et la façon dont il raconte ça, justement, son rapport au passé, son rapport à son terroir.
Pendant de longues années, Maggie Marin, vous avez donc travaillé avec une musique composée tout au long du travail, avec Denis Mariotte notamment, mais vous ne renoncez pas à des morceaux très classiques, à Beethoven, par exemple.
Ah oui, bien
à Bach.
Sûr. Mais pourquoi faudrait-il renoncer ? La musique... À un moment donné, j'ai beaucoup travaillé sur des musiques préexistantes et la rencontre avec Denis m'a amené en fait à travailler avec un musicien vivant. Je trouvais que c'était quand même intéressant de travailler avec des vivants et pas forcément avec des morts. Mais ça m'empêche pas parfois de me replonger dans une partition musicale et de chercher. Alors parfois je ne fais que l'écouter, mais parfois ça me tente vraiment de voir comment c'est foutu en fait. Je prends la partition et j'étudie. Je regarde vraiment comment elle a été composée. C'est magnifique de voir, d'entendre une musique qui vous envoie au paradis, quoi. Enfin, quelque chose
à quelle
de
musique,
très beau.
Par exemple.
Je pense à la grosse fugue de Beethoven, je pense à la jeune fille et la mort, que chaque fois que j'écoute, je pense au Requiem de Mozart. Je pense
grosse fugue est une de vos pièces.
Oui, oui. Donc voilà, je pense à plein de choses, à la flûte enchantée. Beaucoup de choses, et de voir la composition de ça, en fait, ce sont parfois des choses, des fragments assez simples, en fait, qui, mis en couche, deviennent très complexes et font cette espèce de chose où on ne sait pas où est le début, où est la fin. Donc j'aime beaucoup travailler comme ça.
Et en même temps, vous ne suscitez pas d'adhésion immédiate entre musique et mouvement. Vous ne travaillez pas sur cette adhésion qui serait près du côté de la séduction, c'est-à-dire on regarde un spectacle et puis on suit un mouvement rythmé par une musique. Vous ne travaillez pas comme ça.
Non. Même quand la musique est préexistante, je passe toujours par sa construction avant de passer par le ressenti. Je suis plutôt là-dedans aussi, en général.
Vous vous méfiez de l'adhésion immédiate, ça ?
Oui. Je pense qu'on peut se laisser avoir très vite par un ressenti immédiat, quoi. Donc beaucoup de distance avec ceux qui appellent tout de suite quelque chose.
Ce qui ne veut pas dire que les interprètes n'ont pas d'émotion sur scène.
Bien évidemment.
Là, encore une fois, vis-à-vis du spectateur, ça peut laisser un petit peu le spectateur en suspens. Vous n'êtes pas du côté de la séduction.
Je pense pas, non. Je pense pas. C'est pas cet endroit-là que j'aime travailler. C'est un endroit qui est plus caché, plus loin, plus... qui est moins dans l'attirance immédiate d'une empathie ou quelque chose comme ça. Je préfère quelqu'un qui est plus fermé ou plus secret ou plus rude peut-être, avec un fond bien... je me méfie un peu des fanfaronnades amicales et de séduction, oui.
Là, par exemple, BIT qui se joue en ce moment... BIT dans cette pièce où il est question de pas populaires. Quelles sont les danses dans BIT ?
C'est bâtard, quoi.
C'est bâtard, beaucoup de choses.
Il n'y a pas une danse. C'est un assemblage de différents pas de différentes danses populaires.
Oui. Vous ne dites pas folklorique ?
Non.
Non, bon. Un peu de flamenco, un peu de.
C'est pas vraiment du flamenco, il y a plutôt de la sévillane.
Oui.
Puis il y a du sirtaki grec, puis il y a de l'invention idiote à côté, voilà.
Eh bien là, nous ne voyons pas les danseurs danser précisément sur cette musique-là, puisque c'est une autre sonorité, c'est un autre son qui se déroule. Voilà. Donc là, pareil, vous créez ce dédoublement.
Oui.
Pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir. La danse populaire, on reconnaît le plaisir. Ou alors, oui, si on a du plaisir, il se passe du côté de la violence dans votre pièce. Là.
Mais c'est ça, oui, mais c'est toujours un peu dangereux, c'est très glissant, en fait, cette question du plaisir. Après, je trouve que ça dépend qu'est-ce qu'on défend aussi dans la pièce, parce qu'il peut y arriver tout à fait, en fait, qu'on fasse correspondre aussi quelque chose de... Mais alors, c'est pour faire quelque chose d'acidulé. C'est quelque chose, c'est du rose bonbon, enfin, c'est quelque chose, c'est de la chantilly, quoi. Donc si on veut donner cette chose-là, ben effectivement, on va aller dans le sens du poil de tout le monde pour... chez moi, c'est plutôt pas pour faire plaisir, c'est plutôt pour rendre malade, oui.
On aperçoit sur scène un état pulsionnel, c'est-à-dire que quand les gens viennent avoir du plaisir sur scène, puisqu'il y a des scènes assez sexuelles, enfin bon, on est du côté d'une pulsion assez sombre, là.
Oui.
Dans BIT.
Oui.
Oui. Dans Ça quand même, en 2004... Vous écriviez, avec Denis Mariotte, « On ne sait de quelle déception nous pourrons être en partie responsables pour avoir osé déranger nos vies. Quelle arrogance ! Ce que nous faisons, là, imbéciles que nous sommes, cette infime contribution qui nous tient tant à cœur, imbéciles que nous sommes, vous le répétez, qui nous tient tant à cœur, pour, à vrai dire, faire vivre, faire exister, donner corps à ce à quoi nous avons réfléchi, travaillé sérieusement, imbéciles que nous sommes, comme il se doit, à ce qui ne se voit pas. » Ce à quoi nous avons donné notre temps. Peut-être le bilan, parfois, comme ça ?
Bien sûr. Notre métier, en fait, il est fait beaucoup de ça. Dès l'instant que... On a l'impression quand même que ça n'importe plus à grand monde, le travail qu'on fait, ou le bon cinéma, enfin, ou le cinéma qui nous parle au profond de notre cœur, de notre être, il y a de moins en moins, en fait, je trouve, hein, c'est pas qu'il y a de moins en moins, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui sont de l'ordre du commerce, en fait, et qui viennent effacer, enfin, submerger plutôt les choses qui vont au plus profond, en fait. Donc c'est plus cette consommation culturelle, touristique, des loisirs et de l'expression artistique qui s'est beaucoup augmentée. On ne fait plus la différence entre le divertissement, enfin, toutes ces choses-là, qui vient cacher, en fait, les petites perles, en fait, de ceux qui passent du temps et qui n'obtiennent pas forcément un grand succès avec ce qu'ils font, parce que ça touche à d'autres endroits que dans la consommation, quoi. Donc, on a ce sentiment constamment, en fait, dans notre travail Puis en plus, nous, on joue quand même. Donc on est toujours dans cette peur, en fait, de ne plus exister, parce que, voilà, personne ne nous voudra bientôt, parce que ça soulève trop de choses, parce que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête, comme ils disent.
D'être embarrassés aussi, parfois.
Voilà. Simplement. Mais encore, quand ils sont embarrassés, qu'ils le disent, ça, c'est déjà une ouverture, quoi. C'est pas un rejet. Et donc, cette fragilité dans laquelle on se trouve, enfin, fragilité toute relative quand même par rapport à d'autres problèmes sociaux qui sont bien plus importants aussi, mais néanmoins, en fait, cette question de la place de la poétique, en fait, en chacun, qui est de plus en plus... inopérante parce qu'elle rapporte rien, quoi. Ça, c'est vrai que ça nous pose... je pense que ça peut même influencer le travail de certaines personnes. Parce qu'il faut vivre, en fait.
Et en même temps, dans ça quand bien même, vous vous posez la question de votre arrogance. Quelle arrogance de vouloir faire quelque chose, de vouloir peut-être même changer quelque chose.
Ben
c'est
oui.
Une question... que vous posez toujours, parfois.
Ben oui, enfin, on va sur le plateau, on se présente, là, devant des gens. Il faut avoir un sacré culot, quoi, enfin, pour oser faire ça. Il faut mettre du travail, quoi, derrière. On peut pas arriver et dire, voilà, je m'exprime, regardez-moi. Pour moi, c'est difficile, ça.
Vous dites aussi quelle arrogance, dans le sens, si j'ai bien compris, de penser... que vous pouvez peut-être faire changer quelque chose, que votre geste artistique a finalement du poids, dans une certaine mesure.
Et pouvoir penser que ce qu'on est en train de fabriquer peut changer, oui, ou transformer, c'est ce que je dis.
Transformer, oui.
Quelque chose de la vie d'autrui, en fait, quelque chose de la vie de quelqu'un d'autre. C'est bien arrogant, mais enfin, en même temps... comme pour moi, ça m'a changé des choses, en fait, de rencontrer des gens, des artistes, des danseurs. Je me dis que peut-être, voilà, c'est un fil, en fait, qu'il faut faire passer. Alors, c'est pas transformé ni changé pour un grand nombre, mais même si c'est qu'une personne, c'est déjà pas mal, voilà.
Maggie Marin, vous nous parleriez de Spingle, je le prononce pas mal.
Singspiel.
Singspiel.
Voilà.
Vous parliez, l'auriez de Singspiel, votre travail avec David Mambouche. C'est un solo.
Tout à fait, oui. Un solo. Commencé donc 2013 et joué 2014. Oui, c'est un solo qui travaille aussi à partir du masque, en fait. Mais ces masques, au lieu d'être des masques ou traditionnels ou... sont des portraits de personnes, en fait, connues ou inconnues. Et on a travaillé à partir de ces visages qu'on a choisis très délicatement parce que tous ne se laissaient pas habiter. Tout à coup, on a fait tout un travail de corps pour essayer de capter, en fait, quelque chose de la vie de ce visage-là, de cette personne-là. Et parfois, ça ne se laissait pas faire et parfois, c'était étonnamment vivant, quoi. Ça respirait. Donc avec David, on a travaillé à peu près 2 ou 3 mois là-dessus. Il a été vraiment incroyable de précision et d'attention. C'est très très difficile de faire ce qu'il fait. Parce qu'il est aveugle, évidemment. Ce sont des portraits qu'il tient avec la bouche. L'image est vraiment collée à ses yeux. Donc tout ce qu'il fait, enfin, il ne fait que s'habiller et se déshabiller. Mais tout ce qu'il fait est à l'aveugle. Donc c'est beaucoup de travail de toucher, de temps, de rythme. Il a beaucoup travaillé aussi et avec un miroir, parce qu'on avait fait des trous dans les yeux là pour travailler, et aussi avec mon regard, ce que je pouvais moi lui renvoyer. Donc des tas de corps. Alors là, pour le coup, vraiment, quand on dit un état de corps, voilà, un homme qui, un visage qui appelle un corps fatigué, quoi. Ou bien un corps vaillant, poitrine, voilà. Et ça, c'est le visage qui nous donnait ces choses-là.
Ce n'est pas n'importe quel regard, le vôtre, en cette circonstance, Maggie Marin, sur David Mamebouche.
Oui. Oui. Dans le travail, en fait, ça intervient pas tellement, ce genre de choses.
Qui le intervient... fait que vous soyez sa mère.
Oui, ça. Bien sûr. Mmh. Mais dans le travail même, ça, je pense que ça ne joue pas. Là où ça joue, peut-être, c'est qu'il est un acteur, metteur en scène, qui a travaillé avec d'autres metteurs en scène, et que je suis chorégraphe, et que je suis sa maman, et qu'à un moment donné, on veut se retrouver pour tester quelque chose ensemble. Là, oui. Mais une fois que la chose est enclenchée, on revient chacun à son endroit, et après, une fois que c'est terminé, qu'on est heureux du travail qu'on a fait, là, oui, à nouveau, ça, la relation intime de mère et de fils revient. On est très fiers d'avoir accompli ça ensemble, voilà. Quand on travaille avec quelqu'un qui... où on sent qu'on se comprend implicitement, presque, enfin, ça va très vite... Là, c'est intéressant, et c'est ce qui s'est passé avec David. Voilà, mais parce que aussi lui, le travail de masque était important pour lui. Donc, ça s'est rejoint à cet endroit-là. Mais j'ai la même sensation avec Ulysse Alvarez ou avec Cathy Polo, parce que il y a une sorte de rapport très rapide, en fait, de là où on veut en venir. Quand je travaille avec des gens de l'opéra ou d'autres danseurs, où je sens qu'il faut en passer par un filtre déjà de défaire la question du moi, la question de la valorisation de soi. Enfin, c'est compliqué, cette affaire-là, chez les danseurs et chez les comédiens aussi, hein, où ils sont tout le temps, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de passer une audition, quoi. Enfin, qu'ils ont tout le temps besoin de l'approbation de celui qui est en face pour dire ça va ou ça va pas. Alors que là, moi, je sens pas du tout ça. Je sens pas qu'ils attendent que je dise c'est bien ou mal, en fait. Ils attendent pas mon approbation. On travaille. C'est notre histoire, quoi. Et ça, c'est précieux, quand même, d'arriver à cette qualité de rapport de travail. Et du coup, on n'a pas peur de dire, non, là, ça ne va pas du tout, parce que ce n'est pas la personne qui le prend pour elle, en fait. C'est l'endroit du travail, et c'est très différent. On peut aller loin.
Est-ce que vous dansez toujours, Maggie Marin ?
Je danse, oui, dans les studios, dans le travail, oui, oui. J'essaye de m'entraîner un peu. Et puis je danse pour les pièces, en fait, je cherche avec le corps des choses. Je danse plus trop sur le plateau, j'ai plus trop l'énergie. Mais oui, je pense que je danse, et je pense que je danserai peut-être minimaliste, mais longtemps.
Merci Maggie Marin.
Fin de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Maggie Marin. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jordi Robert, réalisation Laurent Polleré, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.